Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture planète du Ciboulot, coproduite par Radiographite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone et filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down.
Au sommaire aujourd'hui, un retour sur quelques acteurs majeurs du nouvel Hollywood et leur trajectoire respective. Et pour ce faire, nous évoquerons quelques-unes des sorties récentes de chez Carlotta Film, comprenant l'Ultra Collector consacré à Retour, un film de 78 de Al Ashby. Ultra Collector qui est accompagné de l'ouvrage L'Esprit Retrouvé, signé Jean-Baptiste Torret, grand spécialiste s'il en est du nouvel Hollywood, ainsi qu'un ensemble de films signés Peter Bogdanovich, composé de Daisy Miller, un film de 74, Texasville, 90, qui est la suite en fait à la dernière séance, son grand film du nouvel Hollywood, et The Great Buster, une célébration de 2018. Nous reviendrons aussi sur la trajectoire du monteur Paul Hirsch à travers son autobiographie qui s'intitule, attention, c'est l'autobiographie qui a la palme du titre le plus court, Il y a bien longtemps dans une salle de montage lointaine, très lointaine. Voilà, et ça, c'est également paru chez Carlotta Film, en partenariat d'ailleurs avec Almano Film. Voilà, ils se sont mis à deux pour éditer ce beau bouquin. Paranoia strikes deep. Into your life it will creep. L'équipe de Culture Prohibée remercie d'ailleurs Lucie Mautier pour son aide sur cette émission. Et pour causer du nouvel Hollywood et puis surtout du début et de la fin du nouvel Hollywood, de ce qu'en sont devenus les auteurs majeurs du nouvel Hollywood, je suis accompagné de mon contradicteur préféré, l'ami Thomas Roland. Thomas Roland qui n'est autre que, bah, vous le savez tous, le loup-garou picard, car chaque nuit de pleine lune, il rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, par exemple, dont il est le rédac-chef, pour l'émission À l'écoute du cinéma diffusée sur RCA, dont il est aussi le rédac-chef. Il cumule ce garçon. Salut Thomas.
Salut GG, bien évidemment, salut à toutes.
On parle du nouvel Hollywood, depuis tout à l'heure, le nouvel Hollywood. Bon, évidemment, vous êtes auditeur de Culture Prohibée, donc vous savez ce qu'est le nouvel Hollywood. Alors, c'est théorisé par Peter Biskind dans son livre éponyme, qui est paru en France chez le Cherche Midi, qui se trouve assez facilement. Le livre se trouve très facilement. C'est un gros pavé de 500 pages. Alors, le titre complet, pour être exact, c'est « Le nouvel Hollywood, Coppola, Lucas, Scorsese, Spielberg, la révolution d'une génération ». Enfin, voilà, vous tapez « Le nouvel Hollywood, Peter Biskind, B-I-S-K-I-N-D » et vous trouverez cet ouvrage qui a fait référence quand même dans l'histoire de la critique cinématographique, même si certains réfutent un peu ce terme de « nouvel Hollywood » aujourd'hui. Beaucoup disent que justement, c'était des indépendants en marge un peu d'Hollywood et puis quelques francs-tireurs qui travaillaient déjà pour les grands studios, mais qui étaient des francs-tireurs au sein des studios, type Sam Peckinpah, par exemple. Voilà. Donc, mais on va s'en tenir, nous, à cette sorte de définition enfin, donnée par Peter Biskind pour pouvoir aborder ce, justement les films d'aujourd'hui, les ouvrages d'aujourd'hui. Parce que le nouvel Hollywood, c'est ce qui fait suite, en tout cas, de ce que beaucoup ont appelé le vieil Hollywood. Hein, mais c'est quelque chose, le nouvel Hollywood, dont on sent les prémices, malgré tout, chez des cinéastes, plus ou moins classiques. Je dis plus ou moins classiques, par exemple, quand je parle d'un Robert Aldrich, qui est quand même un cinéaste un peu étrange, qui a aussi flirté avec l'indépendance parfois, mais par exemple, quand on voit son Veracruz avec Cooper et Lancaster, on voit un film qui déjà commence à être gangréné par quelque chose d'étrange, de pas normal, où on sent bien qu'il y a des velléités de la part du réalisateur d'amener autre chose que ces films faits sur un modèle classique hérité de ce qu'on appelle le vieil Hollywood, c'est-à-dire cet Hollywood de Jack Warner, cet Hollywood des producteurs d'une certaine époque qui ont quasiment l'âge de leur studio, hein, pour la plupart, hein, d'ailleurs, hein, donc qui commencent à être un peu, entre guillemets, has-been, en tout cas plus vraiment en phase avec ce que le public attend, et puis surtout confronté aussi à l'avènement de la télévision, qui est aussi à l'époque, hein, on l'oublie, mais un vrai problème, comme aujourd'hui, un peu le cinéma est confronté à l'avènement des plateformes de streaming. À l'époque, c'est vraiment la télévision qui fait du mal au cinéma. Certains cinéastes, même du vieil Hollywood, hein, on a vu certains, comme John Ford par exemple, commençaient à se poser de sérieuses questions sur l'histoire des États-Unis, par exemple dans les Cheyennes, y compris d'ailleurs, c'est même déjà quelque chose qu'on voit dans L'homme qui tue à Liberty Valance aussi. Enfin, on voit que petit à petit, il y a quelque chose qui est en train de changer dans le système hollywoodien, mais il va falloir attendre, en fait, une sorte de... qu'il y a une bande de fous furieux, en fait, qui se mettent à faire un peu exploser tout ça. Alors, il y a aussi des raisons financières, hein. Par exemple, il y a le tournage du film de Mankiewicz, hein, Joseph Mankiewicz, le tournage du Cléopâtre, avec Richard Burton et Liz Taylor. Alors, tout le monde connaît l'histoire aujourd'hui, hein, de ce film, qui est un film que tout le monde... que tous les cinéphiles aiment, admirent. Alors, pour plein de raisons différentes, des bonnes et des mauvaises, parce que le film n'est pas exceptionnel non plus, mais il y a tellement de choses derrière ce film que, du coup, le film en devient passionnant. Effectivement, c'est un tournage fiasco. C'est emblématique de ce qu'était le vieil Hollywood, c'est-à-dire des méga, des super productions, voilà, des budgets pharaoniques, des tournages très longs, avec des superstars. Le problème, c'est que quand tes superstars deviennent ingérables, bon, Richard Burton, il a disparu, je ne sais pas combien de temps, je ne sais plus si c'était des semaines ou des mois, et on l'avait retrouvé dans un bar ou dans un bordel complètement aviné, enfin Richard Burton, quoi, voilà. Liz Taylor faisait des caprices d'enfer sur le tournage, enfin bon, c'est totalement hallucinant, et le tournage a été un véritable gouffre financier. Là, on est au début des années 60, enfin, on doit être 63, je crois, et puis en même temps, il y a là, c'est aussi la disparition, la mort de stars du vieil Hollywood, où, comme Humphrey Bogart, comme Gary Cooper, et puis des acteurs qui se cherchent, qui sont plus trop... même si Cary Grant fait des choses sympas avec Sonny Donnell et tout, mais même John Wayne, il va faire des trucs comme Brannigan, c'est quand même pas terrible, quoi. On sent qu'ils sont un peu dépassés, toutes ces stars du vieil Hollywood, par ce qui est en train de se passer. Il y a un truc qui ne saisissent pas dans l'air du temps. Et d'ailleurs, ce qui est symptomatique de ça, c'est que c'est cette fameuse anecdote de Martin Scorsese qui raconte qu'il est à la cantine, je sais plus c'est dans quel studio, peut-être Universal, enfin bon bref, ou à la Warner, peu importe, et il croise John Wayne, donc il va le voir avec ses potes, je sais plus qui est avec lui, et il lui dit: écoutez, c'est John Wayne, c'est extraordinaire, vous êtes un acteur mythique pour nous et tout. Et l'autre, il leur tourne le dos, quoi. Il veut pas leur parler. Et les gars lui disent: mais on veut vous parler, vous êtes une légende. Vous êtes... Non, je parle pas les mecs qui ont les cheveux longs, moi. Donc, voilà. Donc, c'est ça, en fait. Moi, je trouve que cette anecdote qui a été souvent... Alors, c'est peut-être pas ça exactement l'échange, mais enfin, en tout cas, où je parle pas aux hippies, enfin bon, voilà. En tout cas, l'échange, il se résume à ça. C'est-à-dire que moi, les gars,
vous êtes pas de mon monde, je vous parle pas. Alors que les mecs viennent lui dire qu'il est extraordinaire dans la dans les films de John Ford, que mais il s'en fout. Il dit, je vous parle pas les gars. Moi je vous parle pas. Vous êtes pas mes amis. On n'est pas du même monde. Et je trouve que ça symbolise bien effectivement ce vieil Hollywood en but contre ce nouvel Hollywood. Et ce qui va se passer, c'est que il y a aussi un autre élément très important. En 67, c'est l'abandon du code ICE. Ce fameux code ICE qui était un truc terrible parce qu'on pouvait représenter très très peu de choses à l'écran, y compris dans les scènes érotiques ou de baisers. Bon, même s'il est plus grand comme Hitchcock, s'était bien amusé du code ICE parce qu'il avait réussi à faire le baiser le plus long de l'histoire du cinéma alors qu'on n'avait quasiment pas le droit de montrer des baisers à l'écran. Mais il s'était débrouillé pour faire une succession de petits baisers qui duraient un nombre de minutes assez important. Donc certains se sont amusés avec ça. Et puis, du coup, mais la fin de ce code ICE, la fin des vieilles stars fait qu'on devait chercher des nouveaux acteurs, des nouvelles têtes. Voilà, et qu'on devait aussi réinventer un peu quelque part le cinéma, parce qu'on se rendait compte que les grosses productions, tout ce qui coûtait cher ne fonctionnait pas. Donc va arriver une bande un peu de fous furieux, alors un type qui quand même symbolise un peu le nouvel Hollywood, Arthur Penn par exemple, mais qui vient quand même un peu, beaucoup viennent de la télévision en fait, hein, et qui va réaliser en 67 Bonnie and Clyde, film de gangster vraiment très, très, très sensuel, très violent, très politisé, et qui va en plus rencontrer un succès énorme, alors qu'en plus au niveau de la narration et tout, c'est un peu plus moderne quand même que ce qui se fait avec des montages très cut, tout ça, enfin un truc très très intéressant. Et puis à la fin, ce ralenti sur la fusillade, cette explosion de violence, gros succès aussi du lauréat de Mike Nichols, qui impose un acteur principal dont aucun studio ne veut. Comprenez bien, il est moche. Enfin, c'est ce que disent les responsables de studio. Après, la beauté, c'est subjectif. Moi, je trouve pas qu'il soit moche, Dustin Hoffman. Mais en tout cas, à l'époque, on lui dit qu'il est moche, qu'il a pas du tout l'étoffe d'un héros et que voilà. Et Dustin Hoffman va prouver, de par sa carrière, qu'il a l'étoffe d'un immense acteur.
Écoutez Culture Prouille.
We were born.
le film qui renverse tout, c'est le road trip sous acide de Dennis Hopper, Easy Rider, film totalement indépendant, même... Bah voilà, je pense même que quand il le tourne, il a même pas de scénario en tête. Enfin bon, voilà, c'est complètement délirant, qui va ouvrir la route à plein de films indépendants, qui va aussi ouvrir la route à plein de copies. Parce que quand même, il faut savoir que Dennis Hopper a été apporté à Roger Corman l'idée du film et que Roger Corman lui a dit « Niet, je produis pas ça ». Et après, il va produire du coup toute une foultitude de films de bikers à la noix parce qu'il s'est dit « Putain, je suis passé à côté de ça ». Donc comme quoi, Roger Corman n'avait pas que du nez. Hein, voilà. Et ça va ouvrir la route, c'est le cas de le dire, à plein de road movies un peu contestataires. Comme ça, il y aura « Point limite zéro » de Richard C. Serafian, « Macadam à deux voies » de Monty Hellman, par exemple, qui sont vraiment des super films. Il y a Robert Altman aussi qui va arriver en 70 avec MASH, qui va vraiment dire beaucoup de mal de l'armée dans ce film. Voilà. Et puis il y a Al Ashby qui va arriver, on va en parler de Al Ashby, hein, avec Harold Emaud. Bon, Harold Emaud qui est une superbe comédie romantique, une belle histoire d'amour. Bon. Le problème, c'est que ça, un studio n'aurait jamais pu produire ça, vu que quand même, cette chère Maud, elle a aux alentours de 80 balais, et que ce cher Harold, il a aux alentours d'une vingtaine d'années. Voilà. Donc c'est une histoire d'amour, une vraie histoire d'amour, avec le sexe et tout ce qui va avec, hein, voilà, entre un jeune homme et une très vieille dame. Voilà. Et Al Ashby va réaliser ça, va réaliser la dernière Corvée, qui est un film dont on a déjà parlé hein, dans l'émission. Il y a aussi Cassavetes, qui lui s'est évadé de la télé pour faire ses films très très particuliers. Hein. On pense à Faces, on pense à Meurtre d'un bookmaker chinois. Et puis, du côté comédie, il y a quelqu'un comme Woody Allen qui va arriver, qui va être un véritable auteur de ses films de A à Z. Et évidemment, il y en a d'autres dont on va parler un peu plus tard dans l'émission, comme Friedkin, comme De Palma, Bob Fosse, dont on a parlé récemment aussi avec notre ami Pascal Français, qui en parle dans son livre Kemp, dans cette série de livres Kemp paru chez Marest Éditeur. Mais je vais m'arrêter un peu sur Al Ashby, parce que Al Ashby, c'est un réalisateur quand même important. On a parlé d'Harold Emaud, la dernière Corvée aussi. Al Ashby est mis à l'honneur là, par Carlotta avec un ultra collector consacré à un film qui s'appelle Retour avec Jane Fonda, John Voight et Bruce Dern. On est vraiment dans la distribution typique des films du Nouvel Hollywood. Jane Fonda, qui à l'époque est très très contestée, hein, puisqu'elle est allée soutenir les Vietnamiens, tout ça. Enfin bon, elle est très très contestée. Quand elle revient, d'ailleurs, ce film est un peu dans la continuité de son engagement. Et là, le film sort dans une très belle édition, accompagné d'un excellent ouvrage de Jean-Baptiste Torret. Et c'est plus. Enfin, c'est un film qui vient plus tard dans le Nouvel Hollywood et plus tard dans la carrière de Al Ashby. Et c'est un film qui, quand il sort, en fin de compte, ne rencontre pas un très grand succès critique. Il faut bien le dire, le film dérange pas mal. Mais je vais laisser tout de suite Thomas nous parler de ce film, Retour, qui raconte l'histoire, ben vous l'avez compris, hein, d'un ancien combattant qui rentre justement qui rentre handicapé, hein, qui est John Voight, et qui revient de la guerre et qui évidemment n'est pas accueilli à bras ouverts aux États-Unis.
Ouais, au départ, c'est pas un projet de Al Ashby, hein, c'est un projet de Jane Fonda, hein, dans la continuité de son engagement contre la guerre du Vietnam, qui a fait que son propre père, Henry Fonda, l'a renié publiquement. Hein. Et donc, elle voulait faire un film sur la guerre du Vietnam et qui ne se passe pas au Vietnam, qui soit vu du point de vue des habitants aux États-Unis. Donc, elle a demandé à une scénariste, Nancy Dowd, d'écrire un scénario. Donc, elle est à l'origine du scénario, elle est créditée comme étant à l'origine de l'histoire. Et en fait, Jane Fonda voulait que ce soit John Schlesinger qui réalise le film. Mais John Schlesinger a refusé en disant que ce film devrait être réalisé par un Américain. Donc c'est aussi un film qui s'inspire assez librement du livre de Ron Kovic, Né un 4 juillet, qui a été adapté plus tard par Oliver Stone au cinéma avec Tom Cruise. Donc il s'inspire librement de ce livre-là. À l'époque, Ron Kovic déjà faisait une tournée pour, par rapport à son livre qui venait de paraître. Et donc c'est un film, donc comme tu l'as dit, Gégé, Jan Voight incarne un soldat qui est revenu dans le film, il est déjà revenu du Vietnam et qui est paraplégique. Et donc Jane Fonda, c'est la fiancée d'un militaire qui est incarné par Bruce Dern, qui lui est sur le point de partir au Vietnam, la fleur au fusil, en se disant quand il va arriver là-bas, il va changer les choses. Alors là, on est en 1968, hein, donc la guerre n'a commencé que depuis 3 ans. Elle n'est pas encore contestée publiquement aux États-Unis. C'est plus tard, c'est dans les années 70, je crois, que vraiment la population va aller à l'encontre de cette guerre. Et donc c'est un film qui vient quand même tardivement dans la contestation anti-guerre du Vietnam, vu que c'est un film de 78, la guerre a fini depuis 3 ans. Et donc là, donc, je disais que ça se passe en 68. Et donc ce personnage, Jane Fonda, incarne donc cette femme, son fiancé part donc au Vietnam, elle se retrouve toute seule et par hasard, elle rentre dans une clinique avec des anciens combattants qui sont handicapés. Elle décide de s'investir, de s'engager, de devenir infirmière bénévole dans ce centre. Et là, elle va rencontrer Jan Voight. Je pense que là où le film a, entre autres, dérangé, c'est qu'il y a une histoire d'amour qui va se nouer entre le personnage incarné par Jane Fonda et le personnage incarné par Jan Voight. Et donc, il y a même une scène séquence d'amour. Hein, qui est en avance, parce que c'est seulement que depuis quelques années qu'on parle de la vie sexuelle des handicapés, qui est en avance sur ce thème-là. Il y a une scène d'amour. Bon, Jane Fonda est doublée, hein, c'est pas elle qu'on voit. Hein. Il y a une scène d'amour entre Jan Voight et Jane Fonda, entre un handicapé et une femme valide. Donc je pense que ça, c'est tabou à l'époque déjà. Et je pense que ça a dérangé. Et aussi ce regard sur le retour de la guerre. Parce que Bruce Dern, bien sûr, finit par revenir. Mais il n'est plus l'homme qu'il était, c'est-à-dire le fier soldat qui va combattre les méchants vietnamiens communistes, etc. etc. Il revient changé. Il a vu l'horreur de la guerre. Et aussi le personnage de Jan Voight, qui au début est assez aigri, assez acerbe, va lui, de son côté, retrouver goût à la vie grâce au personnage incarné par Jane Fonda. C'est un film, c'est un film plutôt intimiste. Hein. C'est un film sur la guerre du Vietnam, mais plutôt intimiste, qui évacue tout effet spectaculaire. Moi, ce que je reproche au film, c'est que c'est un film jukebox. C'est un film avec beaucoup de musique de tubes des années 60. Alors, il y en a plein. Je trouve que c'est un peu saturé au niveau de la bande-son. Mais c'est un film qui, par les différents thèmes qu'il touche, est effectivement assez atypique, parce que généralement, les films contre la guerre du Vietnam se passent généralement à la guerre du Vietnam. Bon, après, plus tard, il y a Jardin de pierre de Coppola, etc. Mais dans cette période-là, c'est surtout des films qui se passent là-bas au Vietnam. Entre autres, Apocalypse Now, qui va au-delà de la guerre du Vietnam. Mais et c'est aussi. Bon, et puis il y a Les Bérets Verts, mais là, c'est un film pro-guerre du Vietnam. On parlait de John Wayne, hein, le deuxième et dernier film de John Wayne. On comprend pourquoi c'est le dernier, d'ailleurs, quand on le voit. Et donc, c'est un film qui est atypique par rapport au thème imposé, qui aussi montre aussi le regard que peuvent avoir. Ces femmes qui restent au pays, ces femmes de soldats qui restent au pays, qui, quelque part, sont esselées aussi. Donc c'est un film qui est, à l'époque, je pense, effectivement, a beaucoup perturbé par rapport à ça, parce que il y a aussi cet adultère, c'est un adultère. Hein. Je pense qu'effectivement, ça devait être tabou à l'époque encore aux États-Unis.
You're in trouble and
Vous écoutez Culture Prohibée spéciale Nouvelle Hollywood.
Après, j'ai dit tout à l'heure, le film a été moyennement accueilli par la critique, plus en France, parce qu'aux États-Unis, il y a eu pour et du contre, mais la profession a apprécié le film, puisque John Voight a eu l'Oscar du meilleur acteur, la meilleure actrice pour Jane Fonda, le meilleur scénario original aussi. Et à Cannes, il a été couronné aussi, il a eu le prix d'interprétation, John Voight. Donc c'est la grande époque de John Voight aussi, hein, c'est vraiment... Et je dirais moi que c'est un film qui est plus sur les conséquences... Le sujet principal du film, c'est les conséquences de la guerre, en fait. D'ailleurs, c'est le même sujet qu'un autre film qu'on peut inscrire aussi dans le Nouvel Hollywood, qui est le Rambo, hein, le premier Rambo, qui traite de ça aussi de manière plus spectaculaire, mais qui traite de ça. Et puis, même si pour Stallone, le Nouvel Hollywood, c'est plus le Rocky de John G. Avildsen, qui lui est un réalisateur du Nouvel Hollywood. Mais le film, en tout cas, son côté militant a suscité effectivement d'énormes controverses. Aux États-Unis, plus étonnamment en France aussi d'ailleurs, hein, mais bon, pourtant on est en 78, donc les opposants à la guerre du Vietnam en France étaient pléthores. Disons que le film est un peu à part dans la carrière d'Alain Ashby. On sent que c'est pas un projet qu'il a nourri de A à Z. Il y a un petit côté mélo dans le film, je trouve qu'on ne retrouve pas dans le reste des films de Al Ashby. Il n'y a pas un côté, comment dire... Je ne dirais pas que c'est lénifiant, parce que ça fonctionne, mais voir John Voight s'adresser aux gamins et tout, à la fin, bon, c'est quelque chose qui peut apparaître. On peut se dire que ce n'est pas vraiment obligatoire, en fait, de le mettre dans le film.
Apparemment, le discours que John Voight a devant les élèves à l'école, c'est quelque chose qu'il a complètement improvisé. Aussi, il y a aussi quelque chose qui a noté dans le film, c'est que... Le film ne fait pas l'impasse sur les conséquences quand on est paraplégique, etc. Genre, par exemple, au début, la rencontre entre John Voight et Jane Fonda, il renverse sa poche d'urine. Il ne fait pas l'impasse sur ce genre de choses. Et aussi, au début, il y a un dialogue entre deux vétérans qui sont de vrais vétérans de la guerre du Vietnam. Et John Voight devait participer à la conversation, mais comme il n'était qu'un acteur qui simulait le handicap, il a préféré rester en retrait, ne pas participer à la conversation, par respect pour les deux anciens soldats.
Quoi qu'il en soit, c'est vrai que le film d'Al Ashby garde une forte... Il reste assez puissant quand même aujourd'hui sur ce que ça raconte des conséquences d'une guerre, peu importe la guerre d'ailleurs. Hein, ça reste quelque chose d'assez prégnant. Al Ashby, pour moi, c'est un très grand metteur en scène. Qui fait partie pour moi un peu des metteurs en scène, alors pour diverses raisons, pas pour les mêmes. Peter Bogdanovich, par exemple, pour moi, c'est un metteur en scène un peu mésestimé. Alors il a travaillé longtemps, on va en parler après de Peter Bogdanovich. Hein. Mais Al Ashby, lui, fait partie de ces metteurs en scène, parti trop tôt, du coup, on l'a un peu oublié. C'est ce qu'écrit d'ailleurs hein, Jean-Baptiste Toré, enfin, il rappelle, il ne l'écrit pas, il rappelle une citation de Peter Biskind du livre Le Nouvel Hollywood, Jean-Baptiste Toré, dans son ouvrage qui accompagne, c'est Ultra Collector. Il rappelle, Al Ashby est aujourd'hui largement oublié car il a eu la malchance de mourir à la fin des années 1980, mais il avait le palmarès le plus remarquable de tous les réalisateurs des années 70. Après Le Propriétaire en 1970, il fit Harold et Maude, La Dernière Corvée, Shampoo, Retour, et Bienvenue Mr. Chance, en 79, qui est un film extraordinaire, Bienvenue Mr. Chance, avant de sombrer dans la drogue et la paranoïa dans les années 80. C'est une destinée un peu à part qui fait qu'on a oublié un peu Al Ashby. Retour est un film important dans l'histoire du cinéma. Le monologue de fin qui est improvisé par John Voight, ça a contribué à ce qu'il ait l'Oscar. Moi, je trouve juste que... Je pense que le film pouvait se finir avant. Après, c'est un débat qu'on peut avoir, hein, mais je trouve quand même que je souligne cette initiative de Carlotta parce que les films de Al Ashby sont plutôt mal édités en fait en France. C'est des éditions très minimalistes Et il y a enfin une édition à la hauteur du talent de ce metteur en scène exceptionnel qui a une carrière quand même assez éclair. Et j'aimerais beaucoup maintenant que Carlotta continue un peu. Et d'ailleurs, ils ont une politique des auteurs, donc souvent Carlotta continue de suivre, essaye d'éditer un maximum de choses d'un même metteur en scène. Tout ça, là, il travaille beaucoup. Il y a beaucoup de choses autour de Denis Hooper aussi dans les mois à venir, là, chez Carlotta. Je pense que ce serait bien, s'il pouvait, évidemment, d'en faire autant sur Al-Ajbi. J'en parlais à l'instant, un autre réalisateur a marqué le nouvel Hollywood, hein. C'est Peter Bogdanovich. Peter Bogdanovich qui a réalisé l'excellent La dernière séance, hein, qui est un des films phares du nouvel Hollywood. La dernière séance, d'ailleurs, qui va connaître une suite des années plus tard, qui s'appellera Texasville, mais on va en reparler. Parce que là, il y a un vrai événement, Peter Bogdanovich. Carlotta continue d'exhumer des choses autour de Peter Bogdanovich. Hein. On avait déjà beaucoup parlé de Peter Bogdanovich pour différentes sorties Carlotta ces dernières années dans l'émission. Et là, chez Carlotta, sont sortis, trois films qui couvre vraiment différentes périodes de sa vie de metteur en scène. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night. Softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was ours, ours, a love I held tightly, feeling the rapture grow, like a flame burning brightly, but when she left, gone. Was the glow of blue velvet, but in my heart there'll always be.
Vous écoutez Culture Prohibée spéciale Nouvelle Hollywood et après.
Can see blue velvet through my tears. Precious and warm a memory.
C'est en 1971 que Peter Bogdanovich assoit sa réputation de grand cinéaste, de grand auteur, d'éminent représentant du nouvel Hollywood avec son film La dernière séance, avec Jeff Bridges, tout jeune, c'est une révélation, avec Cybill Shepherd, toute jeune aussi, magnifique, très belle. D'ailleurs, il tombe amoureux d'elle, hein, sur le tournage. Cybill Shepherd, c'est un peu la blonde parfaite qui d'ailleurs fera fantasmer Robert De Niro lorsqu'il interprétera le personnage de Travis Bickle dans Taxi Driver. Et il trouvera rien de mieux pour de Martin Scorsese, aussi grand film du nouvel Hollywood. Et il trouvera rien de mieux pour la draguer que de l'emmener voir un film porno. Très, très étrange, ce Taxi Driver. Voilà. Et Et Peter Bogdanovich, Sybil Shepherd, donc c'est le film aussi qui lance vraiment la carrière de Sybil Shepherd. Magnifique noir et blanc, enfin superbe film, La Dernière Séance. On en a déjà parlé dans l'émission, puisque Carlotta l'avait réédité. Hein. Et c'est le film qui change sa vie, puisque Peter Bogdanovich, avant, c'est le type qui fait des films pour Roger Corman. Voilà. C'est un très bon film d'ailleurs, avec Boris Karloff, La Cible, Target. Vraiment bien, mais... Voilà, c'est un petit, c'est pas le grand auteur célébré dans le monde entier qu'il devient avec ce film La Dernière Séance. Et après, bah, il fait des comédies qui marchent plutôt bien. Hein. Il est très pote avec Ryan O'Neill, par exemple. On se fait La Valise Docteur en 72, La Barbe Papa en 73, avec Barbara Streisand aussi, si je ne m'abuse, qui sont des chouettes films qui racontent. Qui toujours, en plus, c'est intéressant parce que c'est des comédies. Plutôt dans le style d'ailleurs des comédies à l'ancienne, avec beaucoup de rythme, un petit côté slapstick et tout, mais qui racontent toujours quelque chose de leur époque avec un arrière-fond social, c'est très très intéressant. Et vu que ça marche bien pour lui, comme disait Eric Hunter, ça marche pour moi, eh bien on lui propose d'avoir les mains libres sur un budget, parce qu'à l'époque, la Paramount et d'autres studios d'ailleurs veulent attirer ces réalisateurs du nouvel Hollywood. Ils veulent les faire venir, parce qu'ils se disent qu'il y a la poule aux œufs d'or chez eux, que de toute façon, ce qu'ils produisent ne rencontre plus de public. Donc on les fait venir, on les fait travailler. Et ils lui disent, tu as les mains libres. Voilà. Et le studio chapote, donc la société de production, The Directors Company, où doivent quand même travailler ensemble, excusez du peu, hein, Francis Ford Coppola, William Friedkin, voilà, et Peter Bogdanovich. Voilà. Donc l'un des faits marquants de cette société à la courte activité comme courte vie, c'est le Conversation secrète de Coppola, qui dans le genre film austère, pas très commercial, se pose là, même si c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Donc Friedkin ne fait pas de film, se barre, il jette l'éponge. Visiblement les trois, là, Bogdanovich, Friedkin, Coppola, ça matche pas du tout comme on dit aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup de friction. Et il se dit, écoute, je vais faire un Bogdanovich. Il se dit, je vais faire le film dont je rêve. Je vais adapter Henry James. Hein. C'est d'ailleurs le premier succès d'Henry James, hein, Daisy Miller. Et je vais faire donc Daisy Miller. Je vais adapter Daisy Miller. Et je vais donner le rôle principal de cette femme libre, indépendante, qui fait tourner les têtes. Je vais donner le rôle principal à Sybil Shepherd, parce que c'est un rôle à la hauteur de son talent. Alors, le film est excellent. Hein. Le film est très bien, mais le film ne marche pas du tout. C'est un échec commercial qui va... moi, je rapproche ce film un peu du Test de Roman Polanski. C'est-à-dire, c'est un très beau film, en costume, très beau, très travaillé. On est dans le mélodrame... On est dans le film qui confronte un peu, alors ça c'est les thèmes très Henry James, mais l'Amérique moderne et la vieille Europe, voilà, qui s'affrontent comme ça, avec cette histoire de Daisy Miller, donc cette jeune américaine qui va découvrir l'Europe en compagnie de sa famille, en tout cas de sa mère et de son frère. Et évidemment, elle est un peu frivole. Et elle va faire donc chavirer les cœurs, et elle va tomber amoureuse de plusieurs plusieurs personnages. Alors c'est un film vraiment très très beau plastiquement. Enfin, on sent qu'il a des moyens Bogdanovich. Donc il y a quelque chose de presque élégiaque parfois dans la mise en image qu'il fait. Et puis il parle aussi d'une situation qui, en fin de compte, est toujours d'actualité, et qui est d'actualité d'autant plus à cette époque-là. C'est un film féministe, hein, où cette femme libre, en fait, elle va se retrouver confrontée au jugement de la bonne société. Hein, et c'est un personnage de femme forte. Et ce personnage de femme forte, c'est un personnage, en fait, pas si fréquent que ça dans le nouvel Hollywood, qui mettait souvent en avant des hommes. Les personnages masculins, les personnages de femmes étaient secondaires, voire très secondaires. C'est quand même un cinéma d'hommes, le nouvel Hollywood, il faut le dire aussi. Et à part peut-être
le film de ce satané Martin Ritt, super réalisateur aussi, qui avait été blacklisté parce qu'un peu trop communiste, donc qui travaillait plus, mais avec le nouvel Hollywood, il a pu travailler. Ce film sur la syndicaliste Norma Rae, qui s'appelle d'ailleurs Norma Rae, qui la met en avant vraiment, qui donne le premier rôle à une femme. Donc c'est un film très méconnu, Daisy Miller, de l'ami Peter Bogdanovich, que donc il faut revoir absolument. Peter Bogdanovich, en plus, qui nous a quitté il n'y a pas si longtemps que ça.
Mr. Winterbrook, please, you ask her to sing.
I'd enjoy that.
Oh.
You think so? Well, first we're going to hear Mr. Giovanelli. No. Then maybe I'll sing.
Oh. She's always with
us. I have no doubt.
Ready? Here we go.
When the night walks in as black as a sheet, and the hand that it hangs and fast asleep, dead into her mouth with a serpent creep.
No, no, I think he has helped me. No, I play for you now.
Would you like that?
Very much.
All right.
Vous écoutez Culture Prohibée.
I wandered today to the hill, Maggie, to watch the scene below. The creek and the creaking old mill, Maggie, as we used to long ago. The green grove is gone from the hill, Maggie, where first the daisy sprung. The creaking old mill is still, Maggie, since you and I were young. And now we are aged and gray, Maggie, and the trials of life nearly when you and I were young.
On va passer à Texasville. Alors là, on fait un saut dans le temps. Le nouvel Hollywood, c'est du passé. Hein, on va en parler un peu de ce qu'a précipité la fin du nouvel Hollywood. Mais quelques-uns de ces acteurs eux-mêmes ont précipité en fait la fin du nouvel Hollywood. Mais je vais y revenir après. Alors, on va retrouver le casting de la dernière séance, donc film de 71, en 1990. Ça se passe évidemment plus tard. C'est 35 ans après l'intrigue du premier film, hein, puisque le film se passait pas en 71. Hein, il est sorti en 71, mais il se passait pas en 71. Et là, le Texasville se passe en 87. Et les personnages qu'on avait plus deviné, c'est-à-dire on leur devinait des destinées au sortir du premier film, ont pas tous en fait les destinées qui étaient celles qui leur étaient accolées, en tout cas dans notre imaginaire de spectateurs. Par exemple, le personnage de Jeff Bridges, lui il n'est pas resté à la guerre, hein, c'est devenu un exploitant pétrolifère, un J.R. Ewing, en plus sympa et plus mimi quand même, mais qui en même temps reste le type un peu volage, qui virevolte de femme en femme comme ça, malgré le fait qu'il ait quand même 4 enfants, mais monsieur virevolte. Et puis il a à subir l'effondrement des cours du pétrole, donc on est à la fin des années 80. Et puis tandis que le personnage qui était interprété par Timothy Buttons, lui, il sombrait dans une dépression terrible. Tandis que Sybil Shepherd, elle, fait toujours tourner chavirer tous les cœurs de Texasville. Mais, sa vie a quand même pris un tournant plutôt dramatique, puisqu'elle a une petite carrière de starlette en Italie. Elle a perdu un enfant. Enfin bref, c'est très intéressant. Alors celui-là, et puis l'autre film proposé par Carlotta, The Great Buster in Celebration, qui est un film qui retrace la carrière de Buster Keaton, avec pas mal d'images d'archives et tout, mais aussi pas mal d'intervenants.
qui vont de, bah, de Cybill Shepherd, évidemment. Voilà, il ne peut pas se passer de Cybill Shepherd, à Quentin Tarantino, en passant par Mel Brooks, Werner Herzog, plus étonnant, John Watts, réalisateur des derniers Spider-Man, mais on ne sait pas trop ce qu'il fait là, mais enfin, il est là, hein, ça a peut-être permis à Bogdanovich de vendre son film plus facilement. Mais ces deux films-là, hein, aussi bien celui qui parle de la carrière de Buster Keaton, qui est un documentaire, donc The Great Buster, une célébration de 2018, qui est également disponible chez Carlotta, là, qui vient de sortir, et Texas Field de 90, sont deux films, en fait, où il y a une certaine amertume. C'est-à-dire qu'on sent qu'en vérité, Bogdanovich, il parle de lui. Ah, il est passionné par Buster Keaton, hein, dans le documentaire, c'est pareil, mais il ne commence pas par des images d'archives de Buster Keaton, comme le feraient tous les documentaires. Non, il commence par une image d'archives de lui parlant de Buster Keaton. Voilà. C'est assez étonnant. Il est dans une émission, c'est les années 70, et il parle du mécano de la générale, et il exprime, voilà, tout son amour pour Keaton. Voilà. Et en parallèle, moi, ces deux films-là, que ce soit Texasville ou The Great Buster and Celebration, une célébration, pardon, parce qu'il y a le titre francisé, voilà. J'y vois, moi, des films sur la carrière un peu... qui a tourné en autre boudin, la carrière de Bogdanovich. Bogdanovich, qui était celui à qui on prédestinait, parce qu'il arrivait à concilier cinéma d'auteur et succès populaire, donc à qui on prévoyait une carrière extraordinaire, et puis qui a eu une carrière, en fin de compte, très compliquée, parce qu'il a eu du mal à monter ses films, parce qu'aussi il a eu une vie personnelle très, très compliquée, voilà. Et qui a, lui, vraiment, en plus, fait partie avec l'échec de Daisy Miller. Plus tard, il y aura l'échec des Portes du Paradis de Cimino, mais de ces films qui ont plombé. C'est-à-dire que quand on a donné beaucoup d'argent à ces personnes du Nouvel Hollywood, ils ont fait des films sublimes, hein, parce que Les Portes du Paradis est un chef-d'œuvre et Daisy Miller est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais un très 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 bon film, voilà, mais c'est des films qui n'ont pas fonctionné et qui ont coûté très cher. Donc qui ont un peu précipité la fin de ce modèle de l'indépendance du Nouvel Hollywood. Ça a été très dur d'ailleurs pour des réalisateurs comme Arthur Penn, tout ça après, qui ont dû faire des films quand même qui ont un peu cachetonné quand même. Et ces films donc, qui ont coûté de l'argent, mais aussi le Nouvel Hollywood... Comme c'est très bien expliqué dans le livre de Paul Hirsch, donc qui est sorti chez Almano Film et Carlotta, Paul Hirsch qui raconte sa carrière de monteur qui a pris un essor, alors que lui c'était un pur produit du Nouvel Hollywood, qui a pris un essor avec le film d'un type que lui il considère comme faisant partie du Nouvel Hollywood. Hein. C'était le monteur attitré lui de Brian De Palma, hein, en particulier, hein, Paul Hirsch. Ça fixe le niveau, hein, sur Phantom of the Paradise, sur Carrie, sur voilà. Et il explique que le film qui a changé sa vie, c'est Star Wars. Et il devient le monteur de Star Wars. Et c'est le film qui a changé sa vie, qui a changé son rapport au cinéma, qui l'a appris à travailler autrement. Mais c'est aussi le film, Thomas, ça fait partie de ces films, peu de temps avant l'arrivée de Reagan au pouvoir, qui sonne aussi la fin du Nouvel Hollywood, puisque c'est l'avènement du blockbuster.
Oui, parce que le Nouvel Hollywood, c'est aussi des films qui donnaient une vision du monde un peu plus dure, un peu plus âpre, un peu plus sombre que ce qu'il y avait avant. Pourtant, il y avait déjà des prémices, hein, les films d'Anthony Mann, de Sam Peckinpah, c'est pas forcément des films super joyeux. Hein. Mais il y a quand même les films de Friedkin, French Connection, Sorcerer, etc. C'est pas des films avec des personnages positifs, tandis que là, des films comme Les Dents de la Mer ou Star Wars, donc là, le début de ce qu'on appelle aujourd'hui des blockbusters, ont amené un autre cinéma plus spectaculaire, une vision du monde plus joyeuse, avec de vrais héros positifs auxquels on peut s'identifier plus facilement. Life at last, salutations from the other side. I can see that you're the devil's pride. Do you realize that all you don't need is some hope? Will you hate it that we're part of you? Coming true, I am your crab. Life at last, sit and listen while the fun begins. Hearts are broken and the bad guys win. Sit and listen, all the cutting off is easy and it's sitting for a queasy or a weaker heart. We'll be right back.
écoutez Culture Prohibée spéciale Nouvelle Hollywood et après.
Le livre de Paul Hirsch, hein, donc il y a bien longtemps dans une salle de montage lointaine, très lointaine, permet de saisir tout cela. Alors c'est un livre étonnant, c'est parce que c'est une sorte de manuel. En même temps, on explique comment monter des films, comment on faisait sur Edmond Viola, tout ça, enfin comment on fait selon les époques. Mais c'est aussi, on voit très bien l'évolution du cinéma à travers cet ouvrage. On voit très bien le côté bricolé, le côté très indépendant des premiers films de Palma et le côté qui n'est plus du tout indépendant des derniers films, les Missions Impossibles, tout ça, où De Palma fait du gros film, fait vraiment du blockbuster. Mission Impossible, c'est un blockbuster. Voilà. Donc, on voit tout cela dans ce livre qui est un livre qui est quelque part... Il y a Anne de Suan qui écrit ça dans Télérama. Là, je vais citer Télérama. Hein. C'est entrer par une porte dérobée dans le nouvel Hollywood. Et effectivement, ce n'est pas le sujet au centre de ce bouquin, mais en même temps, ça l'est. C'est-à-dire que lui, il travaille avec beaucoup des grands du nouvel Hollywood et un des plus grands, Brian De Palma, parce que, bon, il faut dire, Brian De Palma, immense cinéaste, aujourd'hui, donc il est bon ton de cracher sur De Palma aujourd'hui, c'est l'un des cinéastes les plus importants de l'histoire du cinéma et du nouvel Hollywood.
Et qui n'a jamais renié ses idéaux.
Et qui continue de faire des bons films, même s'il n'a plus d'argent pour les faire. C'est bien là le problème, d'ailleurs.
Oui, des films un peu bancals, mais bon, moi je continue de dire que c'est un homme qui fait encore les films qu'il a envie, même s'il y a des problèmes de production, notamment sur le dernier.
Et dans ce livre, on découvre donc plein de choses sur l'envers du décor, en particulier... Moi, la partie que je préfère, c'est vraiment beaucoup tout ce qui concerne De Palma. Il y a beaucoup sur George Lucas, parce qu'il adore George Lucas, qui lui a permis de passer à un autre statut. Mais la partie sur De Palma... Les discussions avec le producteur Georges Lito, comment De Palma l'entourloupe en lui faisant croire que l'autre a la main mise et tout ça et tout. Enfin, c'est phénoménal. De Palma, c'est un sacré personnage en fait. Hein. C'est un drôle de loustique. C'est vraiment excellent. Ils s'aiment beaucoup, ces deux-là, ça se sent. Hein. Voilà, De Palma a une place à part dans le livre. Et c'est vraiment, comment dire, un livre très très intéressant. On découvre des choses sur Bernard Herrmann. Bon, on savait qu'il n'était pas facile. On découvre qu'il est encore plus difficile que ce qu'on pensait. Mais bon, ça, voilà, il raconte sa relation compliquée avec Paul Hirsch avec Bernard Herrmann. Et bon, ce qui est intéressant aussi, moi, ce que j'aime bien dans ce bouquin, qui est un pavé, hein, il est énorme. C'est un truc énorme. Il se lit très bien parce qu'il peut se lire film par film, parce que chaque chapitre est un film, ou parfois deux films, mais c'est vraiment bien fait, bien détaillé. Alors il y a la partie technique pour ceux qui veulent apprendre le boulot, mais c'est assez fluide, ça passe très bien. Mais il y a surtout toute la partie anecdote où on découvre en fait que Paul Hirsch est assez maladroit. Ça lui a quand même fermé pas mal de portes, qu'il a refusé aussi des jobs comme par exemple être assistant sur Woodstock, le documentaire de Michael Wadleaf, bien involontairement, il s'est mis à dos Bernard Herrmann, donc sur Sisters, sur Sœurs de sang. Et puis surtout, là, il ne nie pas qu'il a fait un très très mauvais choix aussi quand il a à tout prix voulu faire La loi et l'ordre de John Avnet, parce qu'il voulait monter Pacino et De Niro dans le même film, alors qu'on venait de lui proposer Des mineurs de Catherine Bigelow et qu'il a refusé. Il a dit non, je veux faire le De Niro, Pacino. Il s'est un peu planté sur ce coup-là, même s'il est très content d'avoir pu monter De Niro et Pacino. Donc, le bouquin est un bouquin passionnant. Hein, donc ça s'appelle « Il y a bien longtemps dans une salle de montage lointaine, très lointaine ». C'est coédité par Almano Film et Carlotta Film. Et puis, ben, bien sûr, il y a tous les films qu'on vous a cités de Peter Bogdanovich, Daisy Miller, Texasville et The Great Buster, Une célébration. Et puis le retour, hein, retour de LHB qui sort en Ultra Collector. Tout ça, c'est chez Carlotta. Donc il va falloir casser la tirelire. Mais en tout cas, c'est un bon exemple pour entrer dans le nouvel Hollywood et aussi dans l'après-nouvel Hollywood. Même si on n'a pas répondu à la question vraiment. Et après le nouvel Hollywood, eh bien en gros, c'est ou faire du blockbuster ou disparaître. C'est un peu la morale de nos échanges aujourd'hui. Save me, summer, save me.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, avec également un petit coup de main de Damien Demet dit La Bête Noire de Compiègne à la technique. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnien, signataire de l'architecture sonore de l'ensemble de cette émission. Salut les gens, à la prochaine.